Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, la situation humanitaire très inquiétante dans l'est de la RDC. L'ONG Médecins Sans Frontières lance une nouvelle alerte face au combat qui s'intensifie. Un corridor vert, Kivu, Kinshasa, une réserve pour protéger le bassin du Congo, l'un des plus grands puits de carbone tropical au monde. Le projet a été présenté par le président Tshisekedi hier au Forum économique mondial de Davos. Un don de la Russie vers la Centrafrique qui devrait bientôt arriver à Bangui. 30 000 tonnes de gasoil qui étaient bloquées au port de Douala au Cameroun, mais un accord a été trouvé. Un raz-de-marée pour la CRC, le parti au pouvoir aux Comores. Il décroche 28 des 33 sièges à l'Assemblée nationale. Selon les résultats définitifs des législatives, ils ont été proclamés hier par la Cour suprême. Les opérations autour des mines illégales de Stilfontein qui livrent un nouveau rebondissement en Afrique du Sud. Un suspect soupçonné d'être l'un des responsables de la mine clandestine a réussi à s'évader. Et puis la libération hier en Belgique de la chanteuse Rokia Traoré. Après 7 mois derrière les barreaux, la Malienne a finalement trouvé un accord avec son ex-mari pour la garde de leur enfant. C'est donc une alerte de plus qui émane de l'est de la RDC. Médecins Sans Frontières s'inquiète de l'intensification des combats au nord et au sud Kivu. Sur place, les structures et les personnels de santé ne sont pas respectés, déplore l'ONG. Dimanche dernier, 2 employés de MSF ont été blessés par un tir de roquette tombé sur le garage de l'hôpital de Massissi. Une autre roquette a frappé à proximité. Des balles ont atteint l'hôpital et la base même de MSF. À cela s'ajoute le sort des civils. Outre un afflux de déplacés, l'organisation et son représentant dans le pays, Emmanuel Lampart, s'inquiète de voir arriver de plus en plus de blessés de guerre.
Depuis les premiers jours du mois de janvier, on est en fait face à une vague, une afflux de blessés de guerre. On parle des gens anciens porteurs d'armes, mais davantage civils. Juste pour vous donner une idée, au niveau de Massissi, on parle d'une centaine de blessés, au niveau de Kalehe, à l'hôpital de Minova et au centre hospitalier de Numbi, presque 300 blessés, donc ça fait déjà 400. Et si on ajoute dans les structures de référence à Goma et à Bukavu, appuyé entre autres par le CICR, on est aussi à une capacité litière qui est saturée.
Est-ce que le type de blessure a évolué?
Alors, au niveau des structures de référence, davantage on voit des blessés par explosion, donc artillerie lourde, roquettes, etc. Mais ce qui est surtout interpellant, c'est le nombre croissant de civils blessés.
Emmanuel Lampart, le représentant de MSF en RDC, contacté par Florence Maurice. Et ce matin, le ministre de la Communication et des Médias de RDC lançait justement un appel à la communauté internationale. Invité sur notre antenne, Patrick Mouyaya a affirmé que ne pas prendre de sanctions fortes contre le Rwanda, eh bien, c'est être complice des massacres commis dans l'est de la RDC. Ce sont ses mots. Patrick Mouyaya accuse également Kigali, soutien du M23, d'avoir saboté le processus diplomatique de Luanda. Entretien complet à retrouver sur notre site internet rfi.fr. La RDC encore, et ce projet inédit qui a été présenté hier au Forum économique mondial de Davos par le président Tshisekedi. Un projet pour protéger le bassin du Congo, un corridor vert Kivu, Kinshasa ou une réserve du fleuve Congo. L'ambition est de préserver le plus grand puits de carbone tropical de la planète tout en soutenant un développement durable et inclusif. Un projet inspiré du modèle du parc national des Virunga déjà existant. Mais quelles en sont donc concrètement les grandes lignes? On voit ça avec Passion Ligodi.
2400 km de long entre le parc national des Virunga à l'est, les forêts de l'Ituri et les fleuves Congo jusqu'à Kinshasa. L'objectif principal du corridor vert Kivu-Kinshasa est de protéger 108 000 km² de forêts vierges, abritant des espèces emblématiques telles que les gorilles de montagne et l'okapi. Ce projet ambitionne également de transformer des zones marquées par des conflits en pôles économiques stables. Grâce à l'intégration des solutions énergétiques renouvelables, solaire, hydroélectrique et éolienne, et à des infrastructures de transport durable, ce corridor a aussi pour but de réduire les émissions carbone tout en connectant les agriculteurs locaux au grand marché de consommation. À terme, plus d'un million de tonnes de nourriture seront ainsi acheminées chaque année vers Kinshasa. Autre objectif, la création de plus de 500 000 emplois, dont 20 000 destinés aux jeunes et femmes démobilisés des groupes armés. Au total, le corridor doit permettre d'améliorer la vie de 31 millions de personnes. À Davos, certains bailleurs internationaux ont réaffirmé leur soutien. Le commissaire européen aux partenariats internationaux a par exemple annoncé une mobilisation immédiate de 42 millions d'euros en subvention avec une possibilité de doubler ce montant à court terme. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Moscou avait promis du gasoil gratuit à la Centrafrique et il devrait normalement être convoyé très bientôt vers Bangui. Alors que le porte-parole de la présidence centrafricaine évoquait mardi matin sur la radio Ndekeluka un blocage au port de Douala au Cameroun, peut-être lié aux sanctions occidentales contre la Russie, eh bien un arrangement a finalement été trouvé, François Mazé.
30 000 tonnes de gasoil bloquées au port de Douala et des démarches qui peinent au niveau du Cameroun, regrettait mardi matin Albert Yalokemokpem. Le porte-parole de la présidence centrafricaine semble avoir été entendu puisque hier après-midi, les opérations de déchargement avaient débuté selon les autorités portuaires. Le navire en question ne serait à quai que depuis mardi matin. Les équipes sont mobilisées et une fois le déchargement terminé, le transport sera effectué par la route par le transporteur désigné par le gouvernement centrafricain, à savoir la société Neptune Oil, explique Nchechuma Bandla. Les premiers convois vont partir d'ici la fin de semaine, précise le directeur des ressources humaines du port autonome. Joint hier après-midi, le porte-parole de la présidence centrafricaine explique ce déblocage par une récente entrevue entre les ministres de l'énergie des deux pays. Pour Bangui, ce carburant est un don et non pas un achat visé par les sanctions occidentales. Le navire en question avait déjà quitté la Russie lorsque Moscou a avancé le chiffre de 30 000 tonnes de dons lors de la visite du président Touadéra la semaine passée. Si ce chiffre était confirmé, cela équivaudrait à plus de 36 millions de litres. Une paille sur le marché international, mais un stock énorme pour la Centrafrique qui a importé l'an dernier 28 millions de litres de gasoil.
François Mazé, une date à cocher sur l'agenda électoral du Gabon, étape pour le moins importante de la transition débutée après le coup d'État contre Ali Bongo. Les électeurs gabonais sont convoqués aux urnes pour la présidentielle qui se tiendra le samedi 12 avril prochain, soit plus de 4 mois avant l'échéance initialement fixée pour la fin de la transition, fin août, décret adopté hier en Conseil des ministres. 10 jours après le temps du vote aux Comores, la Cour suprême a proclamé hier à Moroni les résultats définitifs des législatives avec une large victoire pour la Convention pour le renouveau des Comores, le parti au pouvoir qui remporte une très large majorité attribuée dès le premier tour. Mais le scrutin a tout de même été annulé dans 4 circonscriptions pour cause d'irrégularité. Des élections partielles doivent donc normalement être organisées d'ici un mois au plus tard. On fait le point sur ces résultats avec Abdallah Mzembaba.
28 sièges sur les 33 que compte l'Assemblée. La CRC conserve sa mainmise sur l'hémicycle. Les 7 ministres candidats et le président de l'Assemblée nationale ont tous été élus dès le premier tour. Sur les 3 opposants initialement déclarés vainqueurs par la CENI, seul un a vu son élection confirmée par la Cour suprême. Les 2 autres devront repasser par une élection partielle. Au total, 4 circonscriptions sont concernées par l'annulation. Une à la Grande Comore et 3 à Anjouan. Motif invoqué par la Cour suprême: remplacement de membres de bureau de vote, bourrage d'urne, procès-verbaux falsifiés et signatures similaires avec la même écriture sur les procès-verbaux. Une situation rarissime, c'est la 2e fois seulement que cela se produit aux Comores après la présidentielle de 2016, quand l'actuel chef de l'État avait dû passer par une élection partielle pour parvenir à la magistrature suprême. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a annoncé avoir pris acte de la décision de la Cour. Selon Abderrahmane Hilal, chef du comité de communication de la CENI, l'organisation des élections partielles doit intervenir dans un délai maximum de 30 jours conformément à l'article 72 du Code électoral. Abdelham Zembaba Moroni, RFI.
78 corps sans vie remontés à la surface, 246 survivants. Voilà donc, en Afrique du Sud, le bilan des récentes opérations de secours dans la mine illégale de Stilfontein. On vous en a parlé sur RFI. La police avait d'abord tenté de déloger les mineurs par tous les moyens, quitte à les affamer, mais la justice avait ensuite ordonné un sauvetage. Et lors de cette opération, un suspect, soupçonné d'être l'un des chefs de cet orpaillage clandestin, s'est évadé lors manifestement de son transfert au poste de police, car il a bien quitté la mine. Mais là-bas, au commissariat, aucune trace de lui, Valentin Hugues.
Il aurait pu soudoyer des agents de police avec de l'argent ou avec de l'or. C'est ce qu'explique News24, un des principaux médias du pays. Parce que celui qui se fait surnommer Tiger, accusé d'être à la tête d'un vaste réseau de mines illégales, n'a pas pu disparaître comme ça. Après sa sortie de la mine, il a bien été arrêté et interrogé, comme les autres mineurs illégaux. Il est bien monté dans la voiture de police. Jusqu'ici, tout est normal. Seulement, aucune trace de lui au poste. Entre la mine et le commissariat, Tiger, c'est tout simplement simplement évaporé. Alors voici la piste privilégiée. La police pourrait être impliquée dans sa fuite. Un haut fonctionnaire se dit embarrassé par cette situation qui, selon lui, nuit gravement à l'image de cette large opération anti-mines illégale et ajoute que les têtes vont tomber quand les agents complices seront identifiés. La porte-parole de la police nous confirme qu'une enquête interne est en cours pour comprendre cette évasion troublante. En attendant, l'homme est toujours introuvable. Il n'a été enregistré dans aucun autre commissariat ni à l'hôpital et de nombreuses forces de police sont mobilisées pour retrouver sa trace. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
La chanteuse malienne Rokia Traoré remise en liberté hier soir à Bruxelles, arrêtée fin juin en Italie. Elle avait été transférée fin novembre dans une prison belge en raison d'une condamnation de 2023 pour non-représentation d'enfants. Le tout dans le cadre d'un conflit avec son ex-compagnon pour la garde de leur fille de 9 ans restée à Bamako. Mais un accord a finalement été trouvé entre les parties, Florence Maurice.
L'accord prévoit que Rokia Traoré et son ancien mari pourront chacun revoir leur fille, une enfant de 9 ans qui vit actuellement au Mali. Les conditions de ces retrouvailles ont été validées par la justice belge au cours d'une audience à huis clos, mais elles restent confidentielles pour l'intérêt de l'enfant selon ses parents. En attendant, cet accord permet à Rokia Traoré de quitter la prison de Harène dans le nord de Bruxelles où elle a été incarcérée fin novembre. La chanteuse n'est pas obligée de rester en Belgique, elle devra toutefois se présenter aux prochaines audiences, car ce n'est pas la fin du dossier judiciaire. L'affaire qui a valu à la chanteuse d'être condamnée à 2 ans de prison en 2023 doit être rejugée. Mais le nouveau procès qui doit permettre de statuer sur la garde de son enfant pourrait se dérouler dans un climat plus apaisé. À l'origine, son ancien mari, Yann Gossens, l'accuse de l'empêcher de voir leur fille depuis 2019. Cette affaire a détruit ma carrière, avait reconnu Rokia Traoré fin décembre lors d'une audience publique à Bruxelles après son extradition d'Italie.
Florence Maurice à Bruxelles, il est 8h, bientôt 42 minutes. On retrouve Andréane Mellard pour la fin de notre matinale.